Vous écoutez On lit pour vous.
Un appareil pour localiser des enfants autistes qui portent atteinte à la vie privée. Un texte de Charles-Étienne Drouin publié le 22 novembre 2025 sur le site de Radio-Canada. Des familles canadiennes s'abstiennent d'envoyer leurs enfants atteints du trouble du spectre de l'autisme à l'école en raison du refus de certaines administrations scolaires d'autoriser l'utilisation de l'appareil de géolocalisation AngleSense, songe à se tourner vers les tribunaux. Karine Robichaud s'inquiète pour la sécurité de son fils de 9 ans qui fréquente une école de Petit Rocher au Nouveau-Brunswick. Le jeune Anthony, qui a reçu un diagnostic d'un trouble du spectre de l'autisme, a tendance à prendre la fuite, autant à l'école qu'à la résidence familiale. La famille a donc équipé l'enfant d'un AngleSense, un petit appareil spécialement conçu pour les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme qui peut être déposé dans leur poche. Mais selon le ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, l'administration scolaire locale a des réticences quant au dispositif en raison d'une possibilité d'écoute en continu. En effet, le dispositif a la capacité d'écouter à distance des conversations privées, ce qui pose problème. Dans ce contexte, depuis plus de 2 mois, Anthony demeure à la maison et ne fréquente plus son école. Sa famille est d'avis que l'appareil est essentiel pour assurer la sécurité de l'enfant. AngleSense, j'appelle A-N-G-E-L, S majuscule E-N-S-E, en un seul, est un outil conçu pour les enfants avec des besoins spéciaux qui sont à risque de s'enfuir. Avec l'appareil, on est capable de localiser Anthony rapidement, explique Karine Robichaud. J'ai dû retirer mon enfant de l'école parce qu'AngleSense n'est pas permis. C'est pour sa sécurité. Une technologie qui peut prévenir des tragédies ne devrait pas être refusée. Une citation de Karine Robichaud. Refuser d'autres outils de géolocalisation. En Ontario, Megan Dolomon doit composer avec une situation semblable. Son fils, qui a également un trouble du spectre de l'autisme, aura bientôt 5 ans. L'enfant fréquente l'une des écoles du conseil scolaire Upper Grant, qui interdit également l'utilisation d'AngleSense en classe. Tout comme Karine Robichaud, elle refuse d'utiliser d'autres dispositifs, notamment l'AirTag d'Apple. L'école a proposé d'utiliser un AirTag. Il s'agit d'un appareil qui doit être à proximité d'un téléphone intelligent pour fonctionner. Mais que se passe-t-il si mon fils ne court pas à proximité d'un téléphone intelligent? Et s'il se trouve dans une forêt ou dans l'eau? Raconte-t-elle. L'école a aussi proposé à Megan Dolomon d'avoir recours à un bracelet de Project Lifesaver. Avec Project Lifesaver, je ne peux pas voir, sur mon téléphone, où se trouve mon enfant. Quelqu'un devrait remarquer son absence puis m'appeler pour m'en informer. Moi-même ou l'école devrions appeler la police. Ensuite, la police doit se connecter à son ordinateur et rechercher mon enfant. Il pourrait être mort d'ici là, lance-t-elle. AngleSense est spécialement conçu pour les enfants autistes. Je reçois une notification sur mon téléphone si mon enfant quitte ou arrive quelque part en quelques secondes. Je peux plus facilement éviter une situation grave. Une citation de Megan Dolomon. La réticence du Nouveau-Brunswick. Pour tenter de remédier à la situation, Karine Robichaud a contacté plusieurs organismes et intervenants, y compris la ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, Claire Johnson. Cette dernière a répondu à la famille Robichaud par courriel à 4 reprises entre le 17 septembre et le 28 octobre. La possibilité d'écouter en tout temps l'environnement de l'enfant soulève des enjeux importants de confidentialité tant pour les autres élèves que pour le personnel de l'école, a indiqué Mme Claire Johnson dans la première lettre dont le ministère confirme l'authenticité à Radio-Canada. Karine Robichaud ne partage pas l'avis de la province. Elle explique que l'appareil est doté d'un mode école qui empêche la diffusion et la réception d'enregistrements sonores durant la période scolaire. Elle indique également que le dispositif n'enregistre pas les appels, ce que le fabricant d'Ingelsens précise également sur son site Internet. Dans une quatrième lettre envoyée à la famille de Petit Rocher, la ministre de l'Éducation indique que plusieurs alternatives raisonnables et sécuritaires ont été proposées comme moyen de rechange au dispositif Ingelsens. Selon Karine Robichaud, l'école a proposé d'ajouter un autre membre du personnel scolaire pour surveiller l'enfant. L'établissement aurait également proposé d'utiliser TrackKey, T-R-A-C-K-I, un autre appareil de géolocalisation. TrackKey est similaire à Ingelsens, mais sa fiabilité et sa précision ne sont pas du tout les mêmes. Ingelsens est vraiment conçu pour des enfants à besoin, affirme-t-elle. Un risque considérable pour la confidentialité? Point d'interrogation. Elodie Meyer est avocate spécialisée en cybersécurité et sécurité de l'information. Elle s'inquiète de la politique de confidentialité d'Ingelsens. Selon l'avocate, l'entreprise se garde le droit de vendre des données personnelles pour de la publicité ciblée. De plus, Ingelsens utilise l'intelligence artificielle pour entraîner des robots, mais il n'y a pas d'option de désabonnement pour les clients, ajoute-t-elle. L'information qui est collectée est utilisée pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle de la compagnie. Qu'est-ce qu'ils en font par la suite? On ne sait pas exactement, indique Mme Meyer. En tant que parent d'un enfant utilisant Ingelsens ou d'un autre élève qui est dans la classe, ça me préoccuperait. Les informations recueillies par l'entreprise vont où? Elles sont communiquées à qui et comment? C'est nébuleux. Une citation de Maître Elodie Meyer, avocate spécialisée en cybersécurité et sécurité de l'information. Ingelsens a un objectif avoué qui est tout à fait louable, mais l'entreprise a d'autres objectifs un peu cachés auxquels il faut porter davantage attention. Pour moi, ce sont des risques importants, surtout pour des jeunes qui ne sont pas en âge ou en mesure de consentir ou de comprendre les implications du fait que leurs renseignements personnels s'en vont un peu dans la nature, déclare l'avocate. Ils annoncent que la majorité des données sont conservées aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Ça peut être des endroits qui ont des réglementations qui ne sont pas à la hauteur, bien en deçà des législations qu'on a d'habitude au Canada. Ce sont des risques à considérer pour décider si l'on accepte l'outil dans les écoles, ajoute-t-elle. Steve Waterhouse, consultant et conférencier en cybersécurité, est d'avis que les réglementations canadiennes ne sont pas suffisantes pour permettre au milieu scolaire de composer avec ce type d'appareil. Elle ne couvre pas adéquatement l'utilisation d'appareils pour des fins personnelles de repérage, dans un contexte visant protéger la vie privée, fait-il valoir. Les milieux scolaires ont de bonnes raisons d'être préoccupés par l'exploitation des informations personnelles par des appareils comme Ingelsens. Une citation de Steve Waterhouse, consultant et conférencier en cybersécurité. Plusieurs mois sans aucun service éducatif. Le psychologue et professeur associé à l'Université Laval, Égide Royer, est un expert en adaptation et en réussite scolaire. Selon M. Royer, les écoles canadiennes et américaines sont nombreuses à avoir un problème dans la fonctionnalité d'appareils téléphoniques d'Ingelsens, même si l'appareil est doté d'un mode école. D'après l'expert, les parents ont raison de vouloir mieux protéger leurs enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme, notamment avec des appareils de géolocalisation, et les milieux scolaires ont également raison de vouloir protéger la confidentialité des classes. Mais en attendant qu'un compromis soit trouvé, il s'attend à ce que les enfants qui demeurent à la maison, comme Anthony au Nouveau-Brunswick, régressent grandement dans leurs apprentissages. L'offre de services scolaires pour les jeunes présentant un trouble sévère de l'autisme devrait être considérée comme essentielle. Ces jeunes risquent de régresser parce qu'ils n'ont pas accès aux services éducatifs et de réadaptation, fait valoir l'expert. Si mon moyen de pression pour gagner avec l'école, c'est de retirer l'enfant de l'école, ellipse, ça aura un impact démesuré sur l'enfant. On est obligé de recommencer certains apprentissages. Une citation de Égide Royer, psychologue et professeur associé à l'Université Laval. Les tribunaux ou l'école à la maison. En Ontario, Megan Doloman a récemment pris contact avec un avocat. Elle songe à déposer une requête devant les tribunaux de sa province pour faire autoriser l'utilisation d'AngleSense. Même chose pour Karine Robichaud, qui tente de convaincre le bureau du défenseur des enfants et des jeunes du Nouveau-Brunswick de porter sa cause devant les tribunaux. Plusieurs parents, à travers le pays, pourraient bénéficier d'une décision d'un tribunal. Des parents m'écrivent parce qu'ils aimeraient eux aussi faire éventuellement bénéficier leurs enfants de l'appareil AngleSense. Une citation de Karine Robichaud. Mais au bout du compte, Karine Robichaud, tout comme Megan Doloman, envisage aussi l'école à la maison si les milieux scolaires persistent à refuser l'utilisation d'AngleSense. Ses mamans demeurent toutefois optimistes, puisque ailleurs, en Ontario, le conseil scolaire Limestone a décidé d'autoriser, dans certains cas, l'appareil en classe. C'était un appareil pour localiser des enfants autistes qui portent atteinte à la vie privée. Un texte de Charles-Étienne Drouin, publié le 22 novembre 2025 sur le site de Radio-Canada.
Pilote de ligne, il quitte un métier toxique pour la planète. Un texte de Valérie Simard, paru le 7 novembre 2025 dans La Presse. Il avait réalisé son rêve d'enfant, devenir pilote de ligne pour Air France. Après avoir survolé le monde et des paysages touchés par des catastrophes climatiques, Anthony Viau a décidé d'atterrir pour de bon. Fin 2024, il a remis sa démission. Il y a quelques jours, j'ai fait la chose la plus dingue de ma vie, écrivait Anthony Viau le 2 janvier 2025 dans une publication sur LinkedIn où il annonçait avoir quitté son prestigieux poste de commandant de bord chez Air France au terme d'un congé sabbatique de 2 ans. En France, son histoire a eu un grand écho médiatique. À l'automne 2025, il a publié un essai. Voyage interrompu, confidence d'un pilote de ligne éco-anxieux. Dans ce récit inspiré de son dernier vol, reliant Paris à Santorin, il s'ouvre sur son éco-anxiété, expose l'impact de l'industrie de l'aviation sur le réchauffement climatique et critique notre rapport au voyage. La presse l'a joint par visioconférence en France, où il partage sa vie entre Paris et la Bretagne, en train. Depuis qu'il a cédé les commandes de son Airbus 320, l'ex-pilote n'a pas repris l'avion. Je ne m'interdis pas de le reprendre un jour, parce que l'aviation, c'est un bienfait pour l'humanité, reconnaît-il. C'est la dose qui fait le poison. Le problème, c'est le fait qu'on vole trop et qu'on va trop voler encore. Il en a pris conscience petit à petit en voyant, du haut des airs, des incendies de forêt et la fonte de glaciers, ce qui alimentait son éco-anxiété. Celui qui est aussi auteur-compositeur-interprète et qui a écrit des chansons sur l'écologie, préfère utiliser les termes « éco-lucidité » ou « éco-inquiétude » pour définir le mélange de peur, de honte et de solitude qui l'habitait, principalement entre ses vols. Quand on est en train de poser un avion de 60 tonnes sur une piste qui fait 45 mètres de large à 230 km/h, on a autre chose à penser qu'aux insectes qui disparaissent, explique-t-il. Cloué au sol au début de la pandémie, il s'est plongé dans la littérature du réchauffement climatique et a compris la mécanique de l'effet de serre, réalisant qu'une part des GES émis par son avion mettrait un millier d'années à disparaître, voire davantage. Quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit « Oh là là! En fait, mon métier est toxique quelque part pour la planète! » Chacun doit faire sa part. L'industrie de l'aviation est responsable à hauteur de 5 % du réchauffement climatique en incluant l'effet des traînées de condensation. C'est peu, pensez-vous? C'est l'argument que lui servaient plusieurs collègues. Chacun doit faire sa part et chaque secteur industriel doit faire sa part, répond Anthony Vio. Bien qu'elle estime que le nombre de passagers pourrait croître au-delà de 10 milliards en 2050, l'Association du transport aérien international, IATA, vise la neutralité carbone en misant sur les carburants durables, SAF, les nouvelles technologies et la compensation et le captage de carbone. Or, plusieurs experts ont remis en doute l'atteinte de cet objectif s'il ne s'accompagne pas d'une réduction du trafic aérien. Dans une analyse publiée lundi dernier dans Ecological Economics, les chercheurs canadiens Henri Chevalier et Éric Pinault démontrent que la structure économique de l'industrie de l'aéronautique, notamment les investissements massifs dans les infrastructures, crée un impératif de croissance incompatible avec l'atteinte de la neutralité carbone. J'avais l'impression qu'en restant dans cette industrie, je n'avais aucune manière de changer les choses, expose Anthony Vio. En tant que pilote, mon seul levier était de faire de l'éco-pilotage, c'est-à-dire d'essayer d'optimiser la consommation de carburant, etc. Il faut le faire, bien sûr, mais c'est complètement insuffisant. Devenu naturopathe, il aurait pu rentrer discrètement dans ses terres. Il a plutôt choisi les projecteurs, une décision contre nature pour cet homme qui se qualifie de réservé. Je me suis beaucoup posé la question. Est-ce que je pars comme un prince? Sans rien dire. L'objectif de me réaligner avec mes convictions aurait été atteint. Il a conclu que la discrétion ne servirait que sa petite personne et le priverait d'un impact potentiel sur le monde. Dans son milieu, lors de l'annonce de sa décision, il s'est retrouvé devant un refus de voir la réalité en face. On lui disait aussi que son départ ne servirait à rien, puisqu'il serait vite remplacé. « Je n'ai pas fait ça pour sauver la planète », argue-t-il. « Mon petit cas personnel n'a aucun impact en termes d'émissions de CO2. » Ce qui lui importait, c'était plutôt d'arrêter d'avoir l'impression de participer à son échelle à la dégradation de l'écologie et, par la suite, d'inspirer les gens en montrant que c'est possible de suivre sa conscience. Il lui aura fallu 2 ans pour accepter de laisser aller ses acquis. Un métier qu'il adore, des revenus plus qu'intéressants, un statut social enviable, les beaux hôtels. C'est difficile de partir quand on a un job comme ça. Il ne faut pas blâmer les gens de ne pas suivre leurs convictions écologiques. Parfois, c'est impossible. J'ai eu la chance de pouvoir le faire, aussi parce que j'avais ce métier qui était bien payé, donc j'avais pu mettre de l'argent de côté. Aujourd'hui, il estime avoir gagné en sérénité et en santé, mais souligne gagner bien mal sa vie comme naturopathe. Sa source d'inspiration. Il nomme d'emblée Jean-Marc Jankovici, ingénieur et enseignant français, fondateur du Shift Project, un groupe de réflexion sur la décarbonation de l'économie. C'est quelqu'un qui vulgarise le sujet, tout en étant assez direct, voire en étant un peu catastrophiste, mais de manière à faire un électrochoc. Et c'est vrai que, moi, ça m'a fait un électrochoc de l'écouter. Pendant le premier confinement de la pandémie, Anthony Viau a visionné sur YouTube les enregistrements d'un cours donné par Jean-Marc Jancovici. Ça m'inspire, parce que quand on l'écoute, on a envie de fouiller plus et on prend conscience de certaines choses. C'était Pilote de ligne, il quitte un métier toxique pour la planète. Un texte de Valérie Simard, paru le 7 novembre 2025 dans La Presse.
L'écrasante majorité des jeunes Québécois posent des gestes philanthropiques généreux. Un texte de Pierre Saint-Arnaud, paru le 14 novembre 2025 dans Le Devoir. Contrairement à ce que certains pourraient croire, les jeunes Québécois ont le cœur sur la main et sont massivement majoritaires à poser des gestes philanthropiques, même s'ils n'en sont pas nécessairement conscients. Un sondage léger réalisé pour le compte de l'Institut Mallet montre que 87% des Québécois, âgés de 18 à 40 ans, ont posé un geste philanthropique au cours de la dernière année. La directrice générale de l'Institut, Caroline Richard, accueille les données de la première enquête du genre avec beaucoup d'espoir. C'est une bonne nouvelle de voir que les jeunes, bien qu'ils ne se conçoivent pas comme des philanthropes, le sont. C'est une bonne nouvelle, un, pour le secteur philanthropique, oui, mais aussi pour notre société. Des gestes à la portée des jeunes. La notion de philanthropie évoque souvent les grandes fondations et les dons de personnalités fortunées, mais Mme Richard rappelle qu'un geste philanthropique peut être un don de temps, d'expertise, de biens ou d'argent, évidemment, selon les moyens. Il faut prendre en considération que ces jeunes, à un certain moment, sont à l'école ou en début de carrière. On voit les dons se transformer avec le temps, mais on voit surtout que le réflexe du don est déjà présent. En décomposant les données du sondage, on constate même que plusieurs jeunes ont posé plus d'un geste altruiste de nature différente, car s'il y en a 87% au total, on note que 71% ont fait un don en biens matériels, 55% ont fait un don en argent, 49% ont offert des denrées alimentaires et 32% ont donné de leur temps. Dans les catégories argent et temps, des données plus fines nous apprennent que si le don d'argent moyen des jeunes est de 162 $, quand on soustrait ceux qui n'ont pas donné un sou, la moyenne de ceux qui en ont donné est de 296 $. Côté temps, la moyenne générale est de 13 heures données, mais là aussi, quand on exclut du calcul ceux qui n'ont pas donné de temps, cette moyenne grimpe à 40 heures. Plus d'impact que l'on pense. Pourtant, les jeunes ne sont pas très conscients de l'importance de leurs gestes philanthropiques. Le sondage nous apprend que 66% d'entre eux ont l'impression que mes gestes ne sont pas assez importants face à l'ampleur des enjeux sociaux, humanitaires ou environnementaux. Or, cette perception est non seulement fausse, elle est source d'inquiétude pour les organismes spécialisés en philanthropie comme l'Institut Mallet, souligne Caroline Richard. Ça nous parle énormément dans le sens qu'il ne faut pas que ça devienne un frein aux dons. Ça devient encore plus important d'expliquer que chaque geste compte lorsqu'on parle de philanthropie, puis de rappeler aux jeunes l'importance de chaque don et que oui, le geste philanthropique a un impact. Sans surprise, la moitié des jeunes croient que la philanthropie est réservée à des gens mieux établis, financièrement ou professionnellement, que moi. une conception erronée là aussi qui soulève la nécessité d'expliquer ce qu'est la philanthropie. Ce n'est pas qu'un don en argent. C'est selon les disponibilités financières, mais les disponibilités et l'engagement qu'on souhaite mettre lorsqu'on parle d'un don de temps, d'un don de bien. C'est surtout le réflexe du don qu'il faut entretenir selon nos capacités puis nos intérêts, insiste Caroline Richard. Des causes qui étonnent. Les causes qui préoccupent le plus les jeunes en surprendront plusieurs. Le top 10 des causes prioritaires, selon eux, sont, dans l'ordre, les enfants vulnérables, la santé mentale, numéro 1 chez les 18-25 ans, l'éducation, la recherche médicale, l'aide aux personnes démunies, la violence envers les femmes, la défense des animaux, la protection de l'environnement, l'aide internationale ou humanitaire, et la défense des droits de la personne. Les causes nous ont étonnés, avoue Mme Richard. Quand on voit les jeunes vulnérables ou même la santé mentale en tête, on voit vraiment une évolution importante. Je pense que ça explique beaucoup le contexte dans lequel ils sont, les problématiques qu'ils voient et qu'ils vivent. Le sondage n'est toutefois pas assez précis pour savoir si cet ordre correspond au choix des gestes philanthropiques. En d'autres termes, on ne peut déterminer s'il y a eu plus de gestes philanthropiques posés pour les enfants vulnérables ou la santé mentale, par exemple, que pour la défense des animaux ou l'environnement. Mentionnons enfin que, parmi les données du sondage, un peu plus de la moitié des jeunes ont entendu parler de philanthropie à l'école, mais 86% d'entre eux estiment que la philanthropie et l'engagement social devraient être intégrés au programme d'enseignement primaire et secondaire. La philanthropie en éducation, c'est à géométrie variable, se désole Caroline Richard. Le sondage a été mené en ligne du 28 août au 7 septembre 2025 auprès de 1000 adultes québécois âgés de 18 à 40 ans. À titre indicatif, pour un échantillon probabiliste de même taille, la marge d'erreur maximale est de plus ou moins 3 % 19 fois sur 20. C'était l'écrasante majorité des jeunes Québécois posent des gestes philanthropiques généreux, un texte de Pierre Saint-Arnaud, paru le 14 novembre 2025 dans Le Devoir.